La revue de presse internationale.
Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Guillaume.
Où l'on se demande comment contrer les missiles de Kim.
Oui, encore un. Hein. Cette nuit, la Corée du Nord a à nouveau lancé un missile test en direction du Japon, un Pukkuksong 2, c'est son petit nom, qui s'est envolé plein est sur 560 km avant de s'abattre en mer du Japon, rapporte le Korea Herald ce matin, citant des sources militaires sud-coréennes qui ont pu suivre l'engin à la trace. À Pyongyang, on se félicite de ce tir et l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, Korean Central News Agency, annonce d'ailleurs ce matin que le leader Kim Jong-un a, dans la foulée de ce test réussi, autorisé le déploiement de ce missile dans les unités de l'armée du peuple, l'arme devant être dorénavant produite massivement. C'est le 8e tir de missile nord-coréen depuis le début de l'année, selon le décompte de l'agence sud-coréenne Yonhap, et il s'agit de la seconde provocation par tir de missile depuis que Moon Jae-in a accédé à la présidence sud-coréenne le 10 mai, remarque encore l'agence, pour qui les tirs de missile de la Corée du Nord visant à tester l'administration Moon Jae-in devraient se poursuivre. Durant sa campagne électorale, le nouveau président avait dit en effet qu'il adopterait une approche double vis-à-vis du Nord, en cherchant à la fois la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le dialogue intercoréen. Rappelle encore Yonhap, le 19 mai, Pyongyang a condamné cette politique en affirmant que le dialogue n'était pas compatible avec la confrontation. Au Japon aussi, on a réagi, évidemment, et sur le même ton. Le Premier ministre Shinzo Abe a dénoncé ce tir qui, selon ses termes, piétine les efforts de la communauté internationale en vue d'un règlement pacifique de la situation dans la péninsule coréenne, rapporte le Japan Times, qui précise que si le missile de dimanche est bien tombé en deçà de la zone économique exclusive du Japon, Tokyo ne tolérera plus ces provocations à répétition, lesquelles violent clairement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette fois-ci, toutefois, le gouvernement japonais n'a pas activé son système d'alerte, J-Alert, remarque la chaîne publique NHK. Le système en question permet d'alerter normalement un peu à l'avance les autorités administratives locales en cas d'attaque en vue de faciliter les évacuations. De toute manière, fait encore valoir le Japan Times, un tel système serait valable s'il permettait de déclencher la dite alerte au moins une heure à l'avance. Or, les missiles coréens mettent moins de 5 minutes à arriver dans l'espace japonais.
Et les Américains s'inquiètent aussi et se demandent comment contrer l'agressivité de Kim, Éric Biégala.
Oui, les deux derniers tirs de missiles soulignent les progrès rapides de la Corée du Nord, laquelle a annoncé vouloir se doter de la capacité de frapper le continent américain, écrit ce matin le Wall Street Journal. On n'en est pas encore là, mais lors du test de la semaine dernière, souligne encore le quotidien conservateur, la Corée du Nord a lancé un missile balistique de portée intermédiaire, d'une portée supérieure en fait à celui d'hier, et qui pourrait transporter une charge nucléaire. Et les experts calculent qu'un tel missile pourrait par exemple frapper la base américaine de Guam, en mer des Philippines, à plus de 3000 km de Pyongyang. Et le quotidien de citer Victor Cha du Center for Strategic and International Studies de Washington, pour qui pareil test démontre que nous avons une fois de plus sous-estimé les capacités balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Au chapitre des parades, les Américains ont bien installé un système de défense en Corée du Sud début mai. Le système de missiles antimissiles THAAD est susceptible d'intercepter les vecteurs nord-coréens, mais il n'est pas encore totalement opérationnel, remarque la BBC. Il y a actuellement une énorme pression qui pèse sur Kim Jong-un de la part des États-Unis, qui cherche aussi l'aide de la Chine en la matière. Pyongyang est déjà exposé à de multiples trains de sanctions internationales, sans que cela ne modifie le moins du monde son attitude belliqueuse. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question est d'ailleurs convoquée pour demain à New York. En fait, résume Steve Evans, le correspondant de la BBC à Séoul, ces tests de missiles répétés et de plus en plus fréquents, en dépit des injonctions des Nations Unies, indiquent que le leader nord-coréen se sent tout à fait capable de répondre à cette pression internationale et sur le mode du défi. Alors, comment ramener Kim Jong-un à la raison? La solution du problème est peut-être à aller chercher en Russie, plaide pour sa part Léonid Berchinsky, ancien rédacteur en chef du quotidien économique russe Vedomosti, aujourd'hui éditorialiste pour l'agence Bloomberg. Ces dernières années, remarque-t-il, Vladimir Poutine a tout fait pour reconstruire ses relations avec le dictateur nord-coréen. Mais ce ne sont pas tant les relations économiques qui intéressent le Kremlin. Comme la Chine, écrit encore l'éditorialiste, c'est politiquement que Poutine investit en Corée du Nord en tant que zone tampon qui séparerait la Russie des bases militaires américaines en Corée du Sud. Poutine a besoin d'une Corée du Nord militairement forte et de son côté, Kim Jong-un sait très bien que la pérennité de son régime repose justement sur sa crédibilité en tant que zone tampon. Partant, et à moins d'envisager l'option strictement militaire, c'est bien avec Moscou que Washington devrait discuter pour tenter de faire bouger le régime nord-coréen. Malheureusement, remarque pour finir Léonid Berchinsky, l'idée d'un grand deal avec les Russes n'a jamais été moins populaire à Washington qu'aujourd'hui et à vrai dire, pour l'administration Trump, discuter avec les Russes, c'est presque encore plus dur aujourd'hui que de parler avec Kim lui-même.